Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Cantot-Sperber. La pédophilie, un crime ancien, une morale nouvelle, avec Anne-Claude Ambroise Rendu. Le conte du petit chaperon rouge a des interprétations multiples, mais comment ne pas y reconnaître une scène de prédation et d'abus sexuels d'enfants, comme il en existait autrefois, comme il en existe encore probablement. L'abus des enfants n'est pas chose nouvelle, même si c'est depuis plus d'un siècle à peine qu'on en parle explicitement et qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Toutefois, il peut être intéressant de constater que le jugement moral dont l'abus sexuel sur les enfants a été l'objet a considérablement évolué au cours du temps et que les valeurs éthiques mises en avant sont bien différentes entre la fin du XIXe siècle, où il s'agissait surtout d'attentats à la pudeur, et aujourd'hui où l'attention est entièrement concentrée sur le traumatisme subi par les victimes, même très longtemps après, jugent certains, que le crime ait été commis. Anne-Claude Ambroise Rendu, vous venez de publier un ouvrage, Histoire de la pédophilie, 19e-21e siècle. Vous êtes un peu spécialiste des questions de violence, de violence sociale, puisque professeur d'histoire à l'Université de Limoges, vous avez publié récemment aussi Crimes et délits, Histoire de la violence de la belle époque à nos jours. Et dans cet ouvrage consacré à la pédophilie, à l'histoire de la pédophilie, vous brossez un vaste tableau qui commence les crimes dans les viols paysans à la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Quels ont été les événements aujourd'hui, au cours des dernières années, qui ont monopolisé l'attention publique sur ces questions de pédophilie? On pense à l'affaire Doutrou, on pense à l'affaire Marc Dutrou. Est-ce que ces deux affaires qui ont été très fortement médiatisées ont véritablement changé le regard sur la pédophilie?
Oui, bien entendu. Ce sont les deux affaires qui ont alerté l'opinion, dans son extension la plus large, sur la question des crimes sexuels sur enfants. Et en même temps, ces deux affaires, paradoxalement, mais c'est toujours le cas des affaires qui sont très lourdement médiatisées, ont en quelque sorte brouillé les cartes autour de l'appréhension de ces questions. L'affaire Dutrou, parce que c'est une affaire qui a associé de manière presque irrémédiable, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, le crime de sang, l'assassinat, le meurtre et l'abus sexuel. Et l'affaire Doutrou, parce que en rebattant les cartes autour de la précipitation, de la procédure judiciaire, de la précipitation à condamner, de la trop grande créance apportée à la parole des enfants, cette affaire Doutrou a quand même, me semble-t-il, quelque peu modifié cette confiance nouvelle ou cette attention nouvelle qui était portée à la parole de l'enfant. Ou en tout cas, est susceptible de le faire, mais il faut peut-être attendre un peu pour se prononcer, attendre que le temps passe, voir sur la durée comment les choses évoluent.
Alors, nous avons été plongés par cette brève évocation dans l'actualité, si on peut dire, la pédophilie, les nombreux débats moraux qui tournent autour de ça. Faut-il croire les enfants? Le consentement a-t-il un sens? Est-ce que l'âge est pertinent pour la maturité sexuelle et des choses de ce type? Mais il serait bon, puisque vous le faites de manière admirable dans votre ouvrage, de brosser un panorama qui commencerait au XIXe siècle. Les histoires qui sont parvenues jusqu'à nous, souvent de petites paysannes ou de servantes régulièrement violées dans toutes sortes de situations, elles sont livrées sans défense et sont édifiantes. On vient d'une culture où c'était d'une certaine manière l'ordinaire.
C'est difficile de dire ça. En tout cas, c'était perçu et c'est représenté du coup dans les discours que donnent à lire à la fois le personnel de justice, mais aussi un corps social, disons, élargi. C'était perçu comme une chose qui était tout à fait répréhensible, mais qui était difficilement évitable et donc sur laquelle il aurait été bon de passer. Et c'est pourquoi d'ailleurs, pendant toute la première moitié du 19e siècle, ces affaires-là donnent lieu à un grand nombre... manifestement, de traitements infrajudiciaires. On essaye de régler ça entre soi. Ça veut dire qu'on a conscience qu'il y a un dommage. Ce dommage, il peut être lourd parce que quand le viol est achevé, la petite fille a perdu ce qui faisait son capital le plus précieux, surtout dans les milieux populaires, c'est-à-dire sa virginité, hein, donc sa possibilité de se marier dans les meilleures conditions. Et donc, on essaye de régler ça par un échange financier. Et les autorités publiques invitent elles-mêmes à ce règlement infrajudiciaire parce que la dénonciation de ce crime est aussi une difficulté supplémentaire pour la victime puisqu'elle atteint son honneur et elle la salit définitivement. Donc il vaut mieux passer dessus.
Mais enfin, d'un autre côté, dans les cas qui sont rappelés, si la violence physique explicite n'est pas démontrée, l'acquittement est certain, ou l'enfouissement de l'affaire est certain.
Alors, c'est vrai que jusqu'à assez tard, même au XXe siècle, hein, en effet... En contradiction totale avec l'esprit et la lettre du code pénal, qui donc institue à partir de 1832 cet attentat à la pudeur, ce crime d'attentat à la pudeur sans violence sur un mineur de moins de 11 ans, puis de 13, puis de 15. Donc en contradiction avec ce code, la justice cherche de manière tout à fait opiniâtre les traces d'une violence physique, et d'une violence donc, qui a laissé des marques sur le corps, hein, parce que les juges savent, et c'est à leur corps défendant naturellement, que les jurés populaires risquent d'acquitter le condamné, alors même, disent les juges, que le fait est patent, est avéré,
Avoué, mais les
jurés risquent d'acquitter précisément parce que les sanctions étant très lourdes, les jurés qui sont des hommes, il ne faut pas l'oublier, hein, ont tendance à considérer qu'après tout, ce sont des affaires assez véniales au fond.
Je cite le rapporteur, lors du débat à la commission de la Chambre des Pairs sur cette modification du coup pédal en 1832, le rapporteur explique que cette nouveauté qui consiste à considérer que une victime de viol est une victime du seul fait de son âge, en quelque sorte, et que la question de savoir quelle a été son attitude de séduction ou pas, ou de consentement, n'a aucun sens. Cette nouveauté en choquera plus d'un, mais nous nous alignons sur ce que fait la Suisse, la Prusse, sur ce que font la Suisse, la Prusse et l'Autriche lorsqu'il s'agit de la séduction d'une victime si faible et inexpérimentée. Alors, on lit « en choquera plus d'un », de nombreux débats pour introduire cette qualification dans le code pénal des 1832. Je voudrais vous proposer un autre texte, alors là, beaucoup plus récent, qui déplore ce phénomène de criminalisation. « On avait là une sexualité enfantine, villageoise, une sexualité de plein air, au bord du chemin, une sexualité de sous-bois que la médecine va criminaliser. » Michel Foucault, Les Anormaux. Alors, que peut-on en dire aujourd'hui ?
On avait là une sexualité de sous-bois, en effet.
Non criminelle, oui. Mais on a envie de se demander aujourd'hui pour qui non
d'abord,
criminelle.
D'abord, c'est pas vrai. C'était une sexualité qui, au regard du code, était une sexualité criminelle, comme je l'ai dit, mais qui, c'est vrai, était souvent masquée pour les raisons que j'ai évoquées aussi. La question que pose Foucault est une question très intéressante, qui est la question du regard médical qui semble s'éveiller. Donc là, on est dans les années 1860, hein, dans le rapport qui sur lequel il s'est penché de manière assez détaillée. Et Foucault s'étonne de cette attention nouvelle, intense, dit-il, qui s'éveille autour de la criminalité sexuelle. Et donc il y voit un basculement, le passage, dit-il, de l'ars erotica à la scienza sexualis. Hein, donc la médecine s'empare de la sexualité pour en faire l'objet pour en faire son objet. Là-dessus, je le suis, tout en décalant, je décalerai quand même la chronologie, parce que ce rapport-là est un rapport relativement isolé. Hein. Il faut quand même attendre le XXe siècle pour que la médecine et pour que l'expertise médicale pénètre véritablement au prétoire. La question que Foucault ne pose pas, c'est la question de la manière dont la petite fille, dont les enfants ont vécu cette sexualité buissonnière, comme il le dit, ces jeux enfantins, parce que quand même l'individu qui est incriminé en l'occasion dit bien qu'il allait vers ses petites filles à qui il donnait une pièce parce que les grandes ne voulaient pas de lui. Donc il témoigne ce faisant de la fragilité de ces enfants qui ne se trouvent pas en position, en raison de leur âge essentiellement, de refuser ces avances, même s'il n'y a pas violence physique avérée, du moins au départ.
Il est d'ailleurs frappant de voir que beaucoup de jurés, lors de ces procès, considèrent que c'est une initiation sexuelle normale. Enfin, il faut bien que les jeunes garçons acquièrent un peu d'expérience et les petites filles sont là pour ça. Alors aussi, les petites filles et les petits garçons, parce qu'ils entrent en jeu, si je peux dire, et en scène un peu plus tardivement, comme si on découvrait qu'on peut également abuser, en tout cas utiliser le corps d'un jeune garçon et pas simplement d'une petite fille. Mais encore une fois, dans tous ces cas, ce qui est frappant lorsqu'on lit les attendus et la réaction de la presse, c'est que ce qui est répréhensible, c'est la violence, c'est le risque de corruption morale, de subversion de l'ordre social. Mais le viol en tant que tel est... ce qu'on considère aujourd'hui comme une intrusion inadmissible dans le corps et surtout le corps d'un être sans défense, ce n'est pas considéré comme le plus problématique moralement en tant que tel. Alors que pour nous, c'est ce qui fait aujourd'hui la première raison de cette indignation morale que certains considèrent comme un peu excessive et un peu orchestrée.
Oui, il y a plusieurs raisons à ce décalage du regard. C'est d'abord l'ignorance délibérée, parce que le concept était quand même connu, de l'inconscient, tout simplement, je dirais. C'est-à-dire l'ignorance, la volonté de ne pas prendre en compte le fait que cet acte peut laisser des traces, y compris d'ailleurs de manière non consciente, et des traces durables. Il y a J'ai trouvé plusieurs dossiers dans lesquels on dit explicitement, que ce soit le procureur, que ce soit l'accusé lui-même, que ce soit même le juge d'instruction, qu'en raison du très jeune âge de la victime, ce crime sera sans conséquence puisqu'il n'a pas laissé de traces physiques. Donc l'enfant va oublier, ce qui fait quand même bon marché des travaux des pédagogues et même des philosophes du XVIIIe siècle sur l'enfance. Alors du coup, ce qui est pris en compte, c'est éventuellement la modification du comportement moral et sexuel d'un enfant qui a été l'objet de violences sexuelles et dont on va donc considérer qu'il a été en effet touché moralement, dépravé par cette initiation trop précoce. Et c'est ça qui est répréhensible, c'est ça qui est jugé inadmissible. Donc en effet, on est dans le champ d'une évaluation toute morale, d'une criminalité qui n'est pas vécue comme une blessure faite à l'individu, mais encore une fois, un désordre immédiat et à venir social.
Des textes d'ailleurs sont étonnants parce qu'évidemment en ce temps-là comme aujourd'hui d'ailleurs encore récemment si cette petite fille est violée c'est parce qu'elle a bien cherché, c'était de toute façon une petite vicieuse, ça revient sans arrêt. Certains hommes se défendent mais de toute bonne foi en disant mais elle m'a provoqué, elle est à l'âge de 3 ans elle est venue se mettre dans mon lit, elle m'a véritablement provoqué. Donc ce sont des explications assez étonnantes mais parfois les juges ou les enquêteurs les relaient. Alors justement avant de quitter d'achever ce panorama historique, deux éléments sont importants qui expliquent que pour le premier la réticence des juges peut-être ou des jurés à aller plus loin, qui est la volonté de ne pas pénétrer dans les familles, en quelque sorte. Ce que le père fait subir à ses enfants, ça fait partie, en quelque sorte, d'une sphère qui n'appartient qu'à la famille et dans laquelle la justice ne se sent pas autorisée à entrer. Ce n'est que très, très tardivement que la justice s'est permis de considérer que certains parents étaient, d'une certaine manière, indignes d'être parents, c'est-à-dire devaient être déchus de leur statut parental.
Oui, il y a là une évolution qu'on voit se dessiner très progressivement au cours du 19e siècle, puisque, en gros, les cas d'inceste, qui sont donc compris dans ces incriminations, progressent. Ils représentent à peu près 20% dans la première moitié du 19e siècle et 40% à la fin du 19e siècle.
Et aujourd'hui, c'est la quasi-totalité.
Même si ces données chiffrées sont toujours un peu délicates à manier, parce qu'il ne s'agit bien sûr que de criminalité légale, c'est-à-dire dénoncée. Il faut l'intervention du corps médical. En l'espèce, je crois qu'il faut quand même l'évoquer, c'est Ambroise Tardieu, hein, qui est le premier braque les projecteurs sur ces violences, ces blessures faites à l'enfance, pour que, dans le même temps, on s'intéresse un peu plus précisément à l'inceste. Et en effet, on pointe du doigt qu'en réalité, ces crimes sexuels sur enfants se produisent, dans la plupart des cas, dans la famille ou en tout cas dans un cercle assez proche autour de la famille, autour de l'enfant. Et donc, après ce cri d'alarme lancé par Tardieu à la fin des années 1850, au début des années 1860, l'attention est éveillé sur ces questions et cette attention aboutit au vote de deux lois très importantes à la fin du 19e siècle, en 1889 et 1898, qui vont permettre aux législateurs et à la puissance publique de pénétrer un peu dans ces familles et d'aller voir un peu davantage ce qui s'y passe et surtout de prononcer la déchéance de la puissance paternelle, ce qui était absolument impensable avant.
Donc c'est la loi de 1889. Alors bon, passons assez rapidement sur le XXe siècle, mais tout de même deux choses sont à remarquer. C'est ce qui apparaît à partir des années 30, me semble-t-il, c'est-à-dire une certaine revendication sophistiquée, littéraire, extrêmement intellectualisée et esthétisée aussi du goût particulier pour les jeunes enfants et tout particulièrement pour les jeunes garçons, et qui va amener à changer les catégories, parce qu'il ne s'agit plus tellement d'homosexualité ou de viol que d'un rapport tout à fait singulier qui, là, pour le coup, reçoit à proprement parler le nom de pédophilie.
Pour l'extension de ce que j'ai appelé une plaidoirie en faveur de la pédophilie, chronologiquement, ça se passe dans les années 70. C'est en effet le moment où un certain nombre d'intellectuels, il faut bien le dire, d'écrivains, mais c'est très important, me semble-t-il, de contextualiser de manière très serrée ce moment, cette parenthèse de la décennie 70, puisqu'on est donc après mai 68, et que une des préoccupations majeures de beaucoup et d'une grande partie de la jeunesse, c'est de repenser les catégories morales et catégories politiques, et dans ce cadre, de repenser évidemment les questions de sexualité et de défendre une libération de toutes les sexualités, des sexualités alternatives. Et c'est dans ce sillage-là que s'inscrivent les défenseurs des pratiques pédophiles. Défendons la sexualité, défendons le désir, rendons aux enfants le droit au désir. Et c'est ainsi qu'ils vont, dans les médias, se livrer à une défense en règle de la pédophilie qui... Alors, c'est donc le moment où le mot apparaît, il devient donc d'un usage courant. Pédophilie, qui, rappelle-t-il, n'est jamais que l'amour des enfants.
Alors là, c'est très important parce que l'amour arrive quand même au milieu. Parce que nous parlons de ce mouvement très, très caractérisé des années 70, d'ailleurs, dont certaines mouvances politiques payent encore les conséquences aujourd'hui, puisque apparemment ce qui était considéré comme largement normal il y a 40 ans, c'est-à-dire que les parents, en fait, ou que les adultes initient les jeunes enfants à la sexualité, et si ce sont leurs propres enfants, c'est encore mieux. Là, une grande tolérance morale, quand on lit les textes publiés dans les journaux grand public, les courriers des lecteurs, on en parlait très très librement. Il n'y a qu'André Billy qui dit « Mais de quoi parlez-vous là? N'est-ce pas criminalisé ces choses-là » Évidemment, sans violence et au nom de l'amour.
Voilà, au nom de l'amour.
Alors ça, c'est une différence radicale quand même par rapport à ce qui existait dans les cas que nous avons évoqués au XIXe siècle.
En s'adressant à des enfants consentants et des enfants séducteurs. Alors, c'est amusant, c'est intéressant de voir de quelle manière, précisément, ce courant-là retravaille un préjugé qui circule depuis le début du XIXe siècle sur la séduction, voire la provocation à laquelle se livrent ces enfants. Et il le retravaille à la fois en se tenant à distance de la psychanalyse et de la thèse de la latence, par exemple, en estimant que tout ça, ça n'est jamais qu'un appareil normatif visant à contraindre les individus, et en même temps en réutilisant quand même les catégories de la psychanalyse sur les pulsions sexuelles qui animent les enfants. Mais en ne voulant pas prendre en compte une part du discours psychanalytique qui consiste à dire un enfant séducteur n'est pas un enfant qui a forcément envie d'aller jusqu'au bout. Voilà, il a envie de passer à l'acte. C'est là, autour de cette question du passage à l'acte que se noue le conflit entre, me semble-t-il, ce discours de défense de la pédophilie et le discours de ceux qui la dénoncent. Mais je voulais quand même juste préciser une chose. C'est un discours que l'on regarde aujourd'hui de très près, donc il y a un effet de loupe qui résulte de cette observation. Ça n'est pas un discours qui est aussi répandu que ça. C'est-à-dire, si en effet on trouve dans un certain nombre de journaux, dans Libération en particulier, ce discours-là, c'est quand même un titre qui est assez isolé et qui... Ce qui est dû d'ailleurs à la fois à son orientation politique, à sa volonté d'être subversive dans tous les domaines, et aussi d'ailleurs au très jeune âge de la rédaction.
Oui, mais enfin qui tourne sur un combat très précis, c'est-à-dire décriminaliser la sexualité avec les enfants, décriminaliser toute idée de majorité sexuelle, faire en sorte que les rapports avec les enfants soient... ne soit pas puni par la loi, et puis pour ce qui a trait surtout aux petits garçons, que les rapports qu'il y ait une toute liberté d'action, même à part, parce qu'à partir de 15 ans, les relations sexuelles n'étaient plus sanctionnées par la loi.
Alors elles le sont depuis le régime de Vichy, et d'ailleurs par un amendement qui a été confirmé à la Libération, et c'est d'ailleurs à ça que va s'arrimer la revendication pédophile. En réalité, les relations sexuelles entre un mineur de plus de 15 ans, mais de moins de 21 ans, et un majeur, les relations homosexuelles, sont pénalisées. Elles sont poursuivies. Donc les pédophiles trouvent là un élément qui leur permet de s'associer aux revendications des homosexuels. Et cette association fera long feu, mais enfin, dans un premier temps, elle fonctionne assez bien jusqu'à ce que les homosexuels préfèrent se détacher.
Ah oui, se détachent totalement et avec une très grande fermeté. Mais quand on lit les courriers des lecteurs des journaux, les articles de certains articles du Guépier ou du Petit Gredin, donc, publication qui disparaît à la fin des années 70, bien, c'est un bon signe de changement d'époque et de la sensibilité. Où des articles entiers sont destinés à raconter des expériences de sexualité avec des jeunes enfants qu'on aime beaucoup et toutes sortes de récits de ce genre. Il est vrai que lorsqu'on lit ça 30 ans après, c'est un peu étonnant. Peut-être pas le contenu, mais en tout cas l'espèce d'impunité et de relative tolérance sociale dans lesquelles ces textes se déployaient. Alors peut-être faut-il d'ailleurs remonter quelques 30 ans en avant avec cette sorte d'affirmation publique des valeurs de la pédérastie, de la pédophilie autour de Gide, de Monterland, enfin, de ceux qui ont été associés et qui ont pour les premiers aussi revendiqué ce terme de pédophilie et de pédérastie parce que Gide a été extrêmement explicite sur ses goûts. Il est même tenté de manière presque perverse par l'exposition publique.
Le plus explicite et peut-être le plus précoce en la matière, c'est quand même Gide. Même si, alors, il me semble que d'ailleurs, de ce point de vue-là, la confession de Gide a été très, très durablement incomprise, pas par ses proches naturellement qui ne s'y trompaient pas, mais par l'ensemble de la réception critique qui a vu chez Gide le défenseur de l'homosexualité. Gide lui-même disant mais non, ça n'est pas ce que je suis, ça n'est pas ce que je fais, se réclamant lui en effet de la pédérastie parce qu'elle n'utilise pas le terme pédophilie, mais se rangeant finalement au courant qu'il emportait.
D'ailleurs, ni un homosexuel, ni un averti, comme on disait à l'époque, mais un pédéraste.
Voilà, un pédéraste.
C'est-à-dire amoureux des jeunes garçons. Mais les enfants, personne ne s'en occupe. Quand François Deret, qui était le fils de la famille de Sidi Bou Saïd, qui en 1942 a hébergé Gide pendant assez longtemps, publie son livre en racontant comment il a vécu la séduction dont il a été l'objet de la part de Gide, C'est considéré comme une voix totalement hors de propos.
Oui, on n'écoute pas les enfants, on refuse de les entendre. Alors, on a refusé de les entendre très largement tout au long du XIXe siècle, de manière, je dirais, empirique. Et puis, ce refus s'est en quelque sorte trouvé théorisé, donc s'est cristallisé de manière scientifique, au tout début du XXe siècle, avec la thèse de la mythomanie forgée par Dupré. Donc là, on a un instrument merveilleux pour continuer de ne pas écouter, de ne pas entendre les enfants.
Mais il est vrai que lorsqu'on s'appuie sur la psychanalyse, sur les théories de la séduction, sur le comportement de certains enfants, on peut se demander, mais bon, en effet, toutes les sociétés humaines ont interdit l'inceste. Les actes sexuels avec les enfants sont considérés comme répréhensibles de manière très générale. Mais quel est le fondement moral de cela? Après tout, si c'est basé sur l'amour et c'est un véritable don, est-ce que les notions de consentement, est-ce que des notions qu'on pourrait approfondir donnent une justification morale qui, véritablement, permettrait de donner tout son sens à l'interdit? Ou bien est-ce qu'il ne faut pas simplement poser une limite, une sorte de limite conventionnelle? Ce n'est pas possible, c'est l'objet d'une prohibition et ça n'a pas à être explicité davantage. Lorsqu'on s'interroge sur les fondements moraux de cette interdiction absolue et surtout de la réprobation maximale que notre société aujourd'hui porte sur cette question-là, et lorsqu'on lit au fond l'innocence et l'innocence par-delà bien et mal avec laquelle certains dans les années 70 s'exprimaient sur ces questions-là, et lorsqu'on évidemment on décide de ne pas écouter la voix des enfants qui s'expriment longtemps après en général pour dire qu'ils ont vécu un grand traumatisme, il y a là un espace de questionnement qui est quand même aujourd'hui un peu neutralisé, qu'on a du mal à déployer.
Oui, parce qu'en effet, ce questionnement qui, comme tout questionnement, semble absolument légitime sur la question effectivement des interdits, de la nature de ces interdits, du bien fondé des interdits et de leur légitimité. Ce questionnement est très intéressant, sauf qu'on l'a vu avec Foucault d'ailleurs, et on le voit avec les pédophiles des années 70, il exclut systématiquement l'enfant. C'est-à-dire que la plaidoirie pédophile a eu un mérite immense, me semble-t-il, c'est d'invoquer le consentement de l'enfant, d'invoquer la libération sexuelle de l'enfant, son droit au désir, etc. Pour autant, à aucun moment, on a donné au cours de cette décennie 70 la parole publique à des enfants. Il faut attendre après pour que ces enfants soient sollicités, pour qu'on leur demande de s'exprimer sur la question.
Les adultes parlent au nom des enfants en disant qu'ils sont très contents et très heureux.
Les adultes parlent toujours au nom des enfants, que ce soit pour interdire ou pour permettre, pour défendre ou pour condamner.
Alors la loi, une loi très, très importante, quelques décennies, permet à une personne qui a été un enfant qui a été l'objet d'un viol de pouvoir se porter partie civile, en tout cas d'intenter une action en justice, 10 ans après sa majorité. Pas 10 ans après les faits, 10 ans après sa majorité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, jeunes garçons et jeunes filles qui ont été violées peuvent jusqu'à l'âge de 28 ans.
Le délai de prescription a été repoussé à 20 ans.
À 20 ans maintenant.
Jusqu'à 38 ans.
Jusqu'à 38 ans. Donc 20 ans après la majorité, parfois 30 ans ou 35 ans après les faits.
Oui.
N'est-ce pas ? Alors c'est quelque chose qui évidemment laisse peser des... sorte de menace forfaitaire sur beaucoup de cas. Et d'ailleurs, parfois, on le sait que ça a été utilisé pour disqualifier purement et simplement des personnes sans qu'il y ait rien à la base.
Oui, alors ça, c'est le problème de toute la criminalité sexuelle. Et le problème dont on a vu que les magistrats se le posaient dès le début du XIXe siècle. C'est le problème des traces, c'est le problème des preuves, en réalité, puisqu'il s'agit bien de preuves lorsqu'il s'agit d'affaires judiciaires.
Mais là, on n'est plus dans les preuves, 30 ans après. On est dans les traces telles que l'individu se les représente.
On n'est même très souvent plus dans les preuves, juste après. Lorsqu'il s'agit simplement d'attouchement, ça ne laisse pas de traces, et donc il n'y a pas de preuves. Alors, le problème est aggravé lorsque c'est 30 ans après, et c'est toujours donc une parole qui s'oppose à une autre. Et dans ce cas de figure, une parole contre une autre, la justice a beaucoup de mal à trancher, d'où un certain nombre d'errements, mais qu'il est difficile de lui reprocher.
Et parfois, on a l'impression quand même une sorte de phénomène de contrition sociale ou de bouc émissérisation, puisque certaines personnes sont prises comme ayant été... comme mettant l'objet de toutes sortes de soupçons. Bon, ça c'est une autre question, nous y reviendrons. En tout cas, merci Anne-Claude Ambroise-Rendu pour cet entretien. Merci à François Connat qui a réalisé cette émission. Merci à Amandine Grevoz qui était à la technique. Merci à Marie Dalquier. La semaine prochaine, nous parlerons du voile des femmes, symbole de domination ou signe d'appartenance, avec Bruno Nassim Aboudrar. Tout de suite, n'oubliez pas Marie Richeux pour Pas la peine de crier. Et j'espère vous retrouver jeudi prochain à la même heure. D'ici là, très bonne semaine à tous.